comment dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Il fait partie de la légende du tennis. Ses colères homériques, sa combativité, sa soif de victoire, ses talents d'attaquant ont fait de John McEnroe un des joueurs les plus charismatiques du XXe siècle. Une sacrée personnalité, un perfectionniste jusqu'à l'extrême que l'on découvre sous un jour nouveau, sous une nouvelle lumière, à travers des images tournées en 16 mm sur la terre battue de Roland-Garros. Images tournées par un tennisman cinéphile que notre invité Julien Farreau a exhumé et qu'il utilise pour monter une étrange dramaturgie et un pas de deux original entre le sport et le cinéma. L'Empire de la Perfection de Julien Farreau sort mercredi prochain sur les écrans français et vous m'en direz des nouvelles.
Quel dénominateur commun entre tennis et cinéma ?
John McEnroe.
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 John McEnroe.
Lorsque l'on regarde un match de tennis, on ne sait jamais vraiment ce qu'on regarde.
John McEnroe aura marqué le tennis de notre temps.
He's a reflection of the times we live in.
On a l'impression qu'il joue contre lui-même.
Tout le monde en place. Moteur. Action. McEnroe impose le tempo et s'octroie le droit de dire coupé.
Bonjour Julien Farreau.
Bonjour.
Ce film, il faut le dire tout de suite, hein, il n'aurait jamais existé sans un homme que l'on voit à l'écran au tout début. Il s'appelle Gilles de Kermadec. Vous pouvez nous présenter?
Alors Gilles, effectivement, n'était pas un personnage de l'ombre. En tout cas, il appartient au monde du tennis. Donc il n'a pas forcément eu la notoriété qu'il aurait mérité. Ou enfin, en tout cas, qu'il revendiquait pas cette notoriété. C'est un personnage assez discret d'ailleurs, qui avait une grande pudeur, une certaine noblesse. Il avait un côté un peu aristocrate. Il se trouve qu'il a été le premier directeur technique national, qu'on appelle le DTN, tout sport confondu en France, en 1963. Et un de ses premiers projets à la direction technique, c'est de développer l'activité de prise de vue photographique et cinématographique, à la fois pour comprendre mieux le geste et pouvoir constituer des documents, des espèces d'auxiliaires pédagogiques, des films d'instruction.
Des tutos avant l'heure, d'une
certaine
façon.
Exactement, on appellerait ça aujourd'hui des tutoriels. Ce film d'instruction qui est un genre qui m'a particulièrement intéressé, parce que c'est un genre qui intéresse personne. Ni les historiens du cinéma, il y a très peu de choses dans la littérature sur ce genre que j'ai appelé un peu une espèce de degré zéro de cinéma. Et qui pourtant, je l'ai découvert, renferme énormément de références au cinéma, un cinéma plus primitif, hein, dans lequel la caméra vient capter le mouvement, plus que celle de la fiction qu'on connaît. Voilà.
Alors, il en a tourné combien de ce film, de ce genre ?
Alors, c'est difficile à dire. Il y a une dizaine de films, entre 63 et 75, qui sont en général thématiques, le jeu de fond de cours, le amorti, le best match. Et puis après, il va commencer une sorte de portrait technique. C'est une prise de conscience qui est assez remarquable chez lui. Hein. En fait, il se rend compte que le tennis n'est pas applicable à tous, hein, qu'on impose un coup droit ou une forme de service. Et puis, on s'aperçoit quand on va à Roland-Garros qu'il n'y a pas un grand joueur ou une grande joueuse qui sert de la même manière. Et du coup, il va présenter des films qui va s'appeler Roland-Garros avec. Et de 76 à 85, il va y avoir une dizaine de portraits de joueurs et de joueuses dans lequel il va pouvoir détailler l'ensemble de l'éventail technique de tel ou tel joueur.
Alors comment est-ce que vous avez découvert ces films-là, Julien Farreau, ces films et même ces rushs, hein, parce que tout n'a pas été complètement monté?
Alors je travaille à l'Institut National du Sport, à l'INSEP, qui est plus connu pour être le lieu d'entraînement et de formation des athlètes de haut niveau en France, mais qui abrite également en son sein une iconothèque avec 70 000 photos et 2500 films, et qui viennent documenter à la fois l'histoire de l'institution, mais plus généralement du sport en France. Et du coup, donc, j'ai la charge de cette collection, et on fait des trouvailles assez régulièrement, des pépites. Et dans ce cas précis, le rush est la matière première du tournage. Et donc, c'est tout ce qui est avant, ce qui précède et ce qui succède, ce qu'on va conserver au montage. Et en général, les rushs sont détruits. Et ils auraient dû être d'abord au laboratoire.
Et là, coup de chance incroyable.
Et la double coup de chance. Ils existent
encore.
Ils sont là, ils existent encore. Et pour moi, c'est très rare d'avoir accès à ce matériau qui est très riche, parce que donc, du coup, ils documentent le tournage lui-même avec les opérateurs, les preneurs de son. On voit, entre guillemets, toutes les coutures. Et c'est ça qui est très intéressant, qui a apporté toute la richesse et l'ambiguïté sur lequel j'ai souhaité voilà, développer ce film.
Combien de caméras sur un court de tennis en moyenne?
Pour Gilles, il y avait jusqu'à 4 caméras. Et à l'époque, la télévision, il y avait bien une quinzaine avec les Américains. On était autour de 15.
Mais ce sont réellement des films de cinéastes? C'est-à-dire que pour vous, Gilles de Kermadec a fait œuvre de cinéma?
Alors, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que quand vous parlez de cinéma, on ne parle pas effectivement d'Alfred Hitchcock. On parle du cinématographe, de cette invention qui date de la fin du 19e siècle. Et que comme je le disais, qu'il y avait à son origine une... C'était un outil de captation. Donc là, dans ce terme, oui, c'est du cinéma. Et c'est du cinéma parce que dans les années 80, c'est la grande bascule vers la vidéo. Toute la télévision est tournée en vidéo. Et là, il continue à travailler avec un outil qui est un peu désuet, donc au début des années 80. D'ailleurs, tous les grands cinéastes vont se poser la question, est-ce que c'est la fin du cinéma? Je pense par exemple à Wim Wenders, qui a fait plusieurs films sur la vidéo, ou Jean-Luc Godard, etc. Et là, en l'occurrence, ils vont maintenir les caméras de cinéma, donc avec des magasins, on peut tourner que 15 minutes, il faut changer les bobines, il faut les développer, il faut faire des tirages pour... Donc avec toute l'inertie, la complexité de cet ancien outil. Et du coup, c'est effectivement des images de cinéma, de par leur texture, parce que le 16 mm a un grain très particulier, et tout de suite, on voit bien qu'on n'a pas affaire à la télé. Dans la grammaire du cinéma, la première chose qui définit le cinéma, c'est les angles de prise de vue, le choix de caméra. Et là, en l'occurrence, les choix sont assez différents de ceux de la télévision. Et surtout le plan séquence.
Parce que ce qui intéresse vraiment, c'est le geste, c'est le joueur, c'est la posture, c'est le déplacement, etc. C'est pas forcément de nous faire vivre un spectacle télévisuel.
On n'est pas du tout dans la retransmission télévisuelle. Du coup, on est même... l'événement nous échappe, le match nous échappe. On ne sait pas tout le temps... D'ailleurs, moi, j'ai eu difficulté à savoir à quel moment je suis, contre qui, à quelle année, etc. Puisqu'on est focalisé sur un joueur, sur ses gestes, sur ses déplacements. Et du coup, l'ambition est tout à fait différente. Et le résultat est donc, de fait, tout à fait différent.
Voilà, des images que vous avez aussi mises en musique, hein, Julien Faro. Pas uniquement, mais souvent de façon extrêmement rock'n'roll. Est-ce que quand on voit McEnroe évoluer comme ça sur un terrain, c'est un danseur qui est ainsi filmé par Gilles de Kermadec?
C'est plutôt le rocker qui m'est apparu en premier, parce que son corps est, voilà, il est un peu chétif, il paraît surtout.
Il paye pas de mine d'une certaine façon.
Exactement.
Il a l'air très très jeune, et il l'était effectivement.
Il est un peu gringalet, d'origine irlandaise, il est un peu de rouquin, il prend des coups de soleil et bon, il fait pas forcément penser à l'athlète, au super athlète de haut niveau.
Pas du tout.
Indescriptible. Non, moi, ce qui m'a intéressé pour la musique, ce qui a guidé tous les choix musicaux, à la fois des musiques préenregistrées ou des musiques originales qu'on a pu faire, c'est l'idée qu'il dégage une telle nervosité, une tension. Rappelons le corps humain avec le système nerveux. La réponse musculaire, elle répond à un signal neurologique qui est électrique. Et pour moi, l'électricité, elle était palpable. C'est un joueur qui est tellement tendu. Et du coup, le rock, les guitares sont amplifiées avec des lampes ou des transistors. Il y a une forte tension dans ces guitares électriques. Et donc, c'est ce qui a dirigé un petit peu mes choix musicaux. D'autant plus que c'est aussi un pur produit de la ville de New York. Et dans les années 80, c'est une ville qui est extrêmement créative musicalement. Donc, on pense beaucoup au jazz, mais aussi au rock, avec la scène noise et puis les débuts du punk, qui sont complètement contemporains de ce joueur.
Mais alors, Julien Faro, votre travail de cinéaste ne s'est pas contenté, j'imagine, de s'intéresser et de choisir la musique. Vous avez aussi travaillé sur les images, parce que L'Empire de la Perfection, ce n'est pas un film de Gilles de Kermadec, c'est un film de Julien Faro. En quoi a constitué votre travail de cinéaste?
La fabrication de ce film est assez originale pour moi. Les réalisateurs, quand ils doivent travailler sur un film, un documentaire dit d'archives, ont une idée des départs et souvent on va partir sur un scénario, on va se documenter sur le sujet et on va avoir une idée préalable et on va essayer d'illustrer ses propos. Dans mon cas, c'était tout à fait différent. C'est le matériau, c'est ces rushs qui m'ont complètement émerveillé et que j'ai souhaité, en fait, comme vous dites, exhumer et puis mettre en valeur. Et donc je travaille à leur service, donc j'ai dérushé, hein, c'est-à-dire que...
C'est des heures et des heures. Oui, c'est de travail, ne serait-ce que pour pouvoir les voir pour la première fois, déjà.
Oui. Alors, c'est à la fois assez fastidieux, mais aussi très utile, parce que ça permet de décanter. C'est un film qui est, je crois, aussi issu d'une longue maturation. Il a fallu ce temps de très manuel. Hein. Il faut scotcher petit bout à bout. J'ai eu à peu près 20 heures de rush.
Donc vous notez les time codes, hein, comme on dit. Vous dites, ah, je vais prendre telle ou telle scène, et puis ensuite vous raturez. Vous dites, ah, non, finalement, je vais prendre celle-ci. Comment ça s'est passé?
Je faisais des bout à bout, un peu thématiques. Alors je faisais c'est des beaux points, par exemple. Je faisais les contestations contre l'arbitre, les contestations contre les opérateurs, les spectateurs. La finale contre Lendl en 84, j'ai commencé à repérer qu'il y avait pas mal de choses, donc j'ai commencé à grouper. Et ensuite, bah, j'ai dégrossi comme ça. On a numérisé une première fois ces bout à bout. Et puis, alors j'ai quand même un peu écrit, c'était un peu un ping-pong, mais l'idée c'était que voilà, je travaille au service de ces rushs dans la mesure où il y avait des thématiques que j'avais envie de raconter, ce tournage en train de se faire. Et ce qui était troublant, c'était je pouvais parler de tennis et de cinéma, mais au même moment, parce que les opérateurs étant dans le champ, étant même parfois dans l'axe, on voit McEnroe et en arrière-plan le preneur de son, et donc on voit à la fois le sujet du film de Kermadec, McEnroe, un match de tennis, mais également un film en train de se faire, avec aussi des problèmes de cohabitation.
Et il y a aussi un commentaire que vous avez confié à un acteur, une voix qu'on reconnaît tout de suite, celle de Mathieu Amalric.
L'équipe de tournage a capté ici une séquence très rare. Tout comme la floraison des Pouillard et Mundy, ou le passage d'une comète à proximité de notre orbite, la présence de John McEnroe sur un stade d'entraînement constitue un événement peu commun. Bien sûr, l'exercice et la répétition sont l'apanage des besogneux, et pas des talentueux. Mais je crois plus singulièrement que McEnroe n'aime pas faire semblant. Plus enclin à jouer dans l'adversité de la compétition qu'à se plier au simulacre des séances d'entraînement, McEnroe fit tout au long de sa carrière des tournois de double, le véritable socle de sa préparation physique. Il lui arriva à plusieurs reprises de constituer une paire avec son jeune frère Patrick, ici à l'image. Non, McEnroe n'aime pas faire semblant. S'il n'aime pas les séances d'entraînement, il aime encore moins les séances photos. Regardez comme il est à l'aise et détendu en se prêtant à ce jeu de représentation.
Bon, à l'aise et détendu, c'est pas tout à fait ce qu'on voit à ce moment-là à l'image. Julien Farreau, beaucoup d'ironie, hein, on le sent dans les mots, on le sent aussi dans le ton, hein, du commentaire de Mathieu Amalric. Pourquoi est-ce que vous avez choisi un acteur, un homme de cinéma, et qu'est-ce que vous lui avez dit?
Alors au départ, c'était un choix de William Jeannin, le producteur du film, Dufaux Productions. C'était une proposition. Il m'a dit « Julien, qu'est-ce que tu penses de Mathieu Amalric ?» Alors je lui ai répondu que j'en pensais beaucoup de bien. Il représente pour moi ce qui se fait peut-être de mieux dans le cinéma français. Et du coup, j'ai tout de suite adhéré à cette proposition dans la mesure où il y avait pour moi... c'était doublement une bonne idée parce qu'il était capable de renouveler un peu le genre de la voix off qu'on sait toujours très stéréotypé dans les montages d'archives, hein, de style télévisuel, avec des voix très monocordes et très impersonnelles. Donc il serait capable de dynamiter un peu ça et d'apporter plus d'interprétation. On a laissé beaucoup de respiration, on a laissé vivre. Et puis la seconde raison, qui est peut-être plus importante aussi, c'est qu'il apportait de sa présence une dimension cinématographique. Je convoque dans le film des gens comme Jean-Luc Godard ou Serge Danet. Et Mathieu Amalric, même s'il n'apparaît pas en son nom, entre guillemets, même si sa voix est extrêmement identifiable, et malgré tout, il apportait une espèce de, pas de caution, mais de présence cinématographique, et il avait lui-même un regard sur le tennis et le cinéma qui donc m'intéressait et servait le projet.
McEnroe n'est pas cinéaste, mais il excelle dans ce registre de l'invention du temps. Grâce à sa mainmise sur l'espace du court, il impose le tempo et s'octroie, privilège de l'attaquant, le droit de dire « couper ». En abrégeant l'échange au filet. Si McEnroe apprécie de maîtriser la conclusion des échanges, il aime aussi pouvoir décider de leur introduction. Tolérant difficilement que quelqu'un lui dispute la direction des opérations, il n'hésite pas à s'enquérir auprès des techniciens sous ses ordres, des raisons pour lesquelles le film du match a été interrompu.
No, so if there's a serve, there's no point. Because if you saw the ball out, there's no point. Okay, then it's out. The serve was out.
Ah, et on voit McEnroe se rapprocher de la chaise de l'arbitre et discuter, c'est-à-dire on discutaillait avec lui en anglais, bien sûr. Alors, il n'est pas cinéaste, hein, effectivement, Julien Farreau, mais il nous fait un peu son cinéma, quand même, John McEnroe. C'est pour cette raison-là que vous avez choisi de focaliser le film sur lui?
Alors, c'est vrai que c'est un joueur qui génère beaucoup d'incompréhension et d'ambiguïté, en tout cas. C'était un joueur qui avait pas mal, faisait pas forcément l'unanimité à l'époque.
Très controversé. On l'adorait ou on le détestait, quoi. Voilà, il n'y avait pas vraiment de tiède avec
lui. Tout
à fait.
On adorait le détester. Et c'est un joueur qui, effectivement, a su exploiter, tirer parti de ses colères, ce qui est très difficile et très rare.
Tirer parti pour mieux jouer? Tirer parti pour s'imposer sur l'adversaire?
Voilà, ou en tout cas, pas sortir du match, ce qui était compliqué à réaliser.
Mais alors c'est plutôt le contraire pour un joueur de tennis moyen. En général, quand on s'énerve, ben on perd en concentration.
Tout à fait.
On perd des points.
Derrière, il y a
une double... des jeux, ouais. Et parfois on perd le match.
Il y a une double faute, il y a une faute directe, clairement. Chez lui, c'est tout le contraire. Sous les points, sortir des colères sont souvent gagnants. Donc il y a, pour lui, ça a été aussi un moteur. Ça, il se nourrissait de ça. Mais la nuance que j'ai voulu apporter dans le film, je crois, c'est qu'il était aussi extrêmement sincère. Comédien,
showman, disons-le quand même. Ce qui n'empêche pas justement une forme de sincérité, mais c'est là peut-être effectivement qui est la ligne de fracture.
Ce qui est sûr, c'est que c'est un volcan émotionnel. Pour lui, c'est irrépressible. C'est-à-dire que ses colères, ses émotions qui sont très fortes, il peut pas les réfréner. Il peut pas. Elles doivent sortir. Et du coup, pour moi, il y a une vraie sincérité. Alors effectivement, il est très théâtral. Il est très expressif dans son visage, dans son corps. Et c'est ce qui crée, je crois, cette grande ambiguïté.
Alors, il y a un match phare sur lequel vous vous êtes arrêté. On est en 1984. On est à l'apogée de la carrière de McEnroe. Il a à peu près tout gagné, hein, à ce moment-là. Il est numéro mondial. Et puis, il affronte en finale de Roland-Garros, Ivan Lendl, le Tchécoslovaque. Alors là, on est vraiment dans deux types de personnages complètement différents. Et ce match-là, vous nous le racontez, Julien Faro, un peu à la façon d'un western. On a presque l'impression que les raquettes ont remplacé le pistolet. De cette façon, et on est dans une dramaturgie extrêmement différente de celle qu'on a pu tous voir à la télévision à ce moment-là. Est-ce que c'est une autre histoire de ce match que vous avez voulu raconter ?
Effectivement, il y avait des gens d'abord qui ont eu la chance d'assister au match dans le stade. Il y a, pour un plus grand nombre d'entre nous, on a pu découvrir le match par la télévision, et là, je devais créer une sorte de nouvelle, de troisième voie, montrer le match au cinéma, et donc il a fallu travailler sur la dramaturgie. Et ce qui a guidé donc mon entreprise, c'était effectivement de présenter ça comme une sorte de tragédie. Et si le film est très digressif pendant une heure, là on a un moment de cinéma pur où les gens vont plonger et profiter des scénarios incroyables qu'offre le tennis, parce que rappelons que c'est un sport où le temps n'est pas imparti, donc c'est aux joueurs de créer le temps dont ils ont besoin pour gagner. Et donc il y a des renversements de situation, il y a des moments creux, des relances, etc.
Il y a des ellipses aussi, hein, ça. Et là pour le coup on est vraiment aussi dans le cinéma.
Exactement, le cinéma étant un art de l'ellipse. Alors ça, au départ c'était parce que j'avais pas assez d'éléments, j'avais pas la retransmission en continu
complète,
hein, comme la télé, donc il a fallu composer avec. Et comme vous le remarquez très justement, effectivement j'ai procédé par ellipse. C'était aussi, on avait une mémoire de ce match qui était un peu mythique. Donc ce sont des instants et des moments du match.
Alors votre film, il a été projeté cette année à Roland-Garros. Est-ce que John McEnroe, qui était là cette année, est venu le voir?
Non, on n'a pas pu le voir. Je ne sais pas exactement s'il était occupé ou. Je crois qu'il était un peu sur la défensive depuis le projet de fiction qui est sorti il y a 6 mois, 1 an, la Borg McEnroe. Donc nous, on communique avec son agent qui filtre pas mal. Et donc pour le moment, j'ai pas eu l'opportunité de le croiser, mais je pense qu'on va finir par se croiser dans les prochains mois.
Acceptons-en l'augure. Merci beaucoup Julien Faro. John McEnroe, l'empire de la perfection, à découvrir sur les écrans français à partir de mercredi prochain. Merci.
Main d'œuvre. Margot BD. Aujourd'hui, je suis...
le chirurgien esthétique en automobile. Là, c'est un V8 quand même. Hein. Donc là, on est sur une Montréal V8 qui chante. Donc, je m'appelle Gilles Bartolini. Je suis carrossier formeur et je fais la restauration des véhicules anciens depuis une dizaine d'années. Sinon, je suis dans l'automobile depuis 38-39 ans. Tu as remis l'eau dans le radiateur ou pas là? Alors vas-y, démarre là pour voir ce que ça donne. Voilà, nous sommes sur une Fiat 131 Abarth, modèle assez rare. Là, en l'occurrence, celle-ci, bah, nous faisons un rinçage du circuit de refroidissement. Donc voilà, comme on peut constater, voilà, tout se passe bien, ça a été rincé. Tout au niveau du manneau, là, ça monte pas trop, ça va?
Nickel.
On est bon?
Ah, très bien.
Bon, bah, c'est bon, tu peux la couper et puis après, on va partir en essai. Voilà. Ça roule. par rapport à un garage lambda, on va dire, de carrosserie courante. La restauration automobile est complètement différente parce qu'en fait, nous sommes sur des véhicules rares, exceptionnels, et on travaille, si je puis dire, au coup par coup, sur des véhicules où il en reste, pour certains modèles, très peu d'exemplaires. Dans la collection, un rond, il faut qu'il rentre dans un carré, et un carré dans un rond, parce que il faut avoir l'esprit inventif, fin et imaginatif pour recréer des pièces qui n'existent plus. Donc, on est sur de la haute couture. C'est toute une passion, et en plus, on a un historique. Voilà, on travaille sur de l'historique, contrairement aux voitures d'aujourd'hui. Alors, un véhicule de collection, au niveau de la loi française, est reconnu collection au bout de 30 ans. Lorsque Stéphane frappe la tôle pour redresser l'aile, il y a un outil actif, un outil passif. L'outil passif, ça s'appelle un tas. Ça ressemble à les une cale arrondie. Il faut absolument pas que ce soit marqué ni déformé. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a, par exemple, un creux sur ce tas, donc qui est l'outil passif, qui se trouve sous la tôle, entre les deux, vous avez la tôle et vous avez l'outil actif, la batte. Donc quand vous frappez et que vous formez votre tôle, forcément l'empreinte, le défaut qu'il va y avoir sur le tas va se reproduire sur la tôle. Donc il faut que ce soit toujours des outils impeccables. La restauration se compose de plusieurs choses. Hein. Il y a plusieurs corps de métier. Carrosserie, formage, donc on part d'une tôle plate qu'on forme à la main. On est capable de fabriquer une porte, une aile, enfin ce qu'on veut. Ensuite la peinture, mécanique, électricité et sellerie. Et dans certains métiers, nous, qu'on fait pas ici parce qu'on fait des voitures après-guerre, mais sur les avant-guerre, vous avez beaucoup de voitures en bois. Et là, à ce moment-là, vous avez menuiserie et bénisterie. Alors là, Stéphane est en train de ressouder une pièce de forme sur une Maserati 3500 GT. Il exécute un cordon pour assembler les deux tôles. Et ensuite, bah, ça sera mollé, disqué, et on verra plus du tout l'assemblage des deux tôles. C'est le but. Voilà. Donc il a effectué sa soudure et là maintenant il est en train de passer la ponceuse pour lisser au maximum la tôle avant de mettre ses impressions. Les impressions, donc c'est un produit anti-rouille, et après pour pouvoir passer l'application du mastic de finition. Quand on entend un 6 cylindres, un 12 cylindres, un V12, un 6 en ligne, un V8, chaque sonorité est différente et c'est une musicalité pour nos oreilles. Quand vous rentrez dans une voiture ancienne, vous avez l'odeur, la douceur des cuirs qu'on n'a plus aujourd'hui sur nos voitures modernes, l'épaisseur des moquettes, les reflets sur une aile arrondie, je sais pas comment expliquer, mais bon, ça se vit.
Aujourd'hui, j'étais...
le chirurgien esthétique en automobile.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Hélène Alex, Daphné Gasteldi, Alain Pilot et Elia Bergel, bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour François.
Avec vous Elie, on va partir dans un instant à Londres, mais en restant à Paris quand même, hein, puisque c'est au Petit Palais que vous nous emmenez.
Oui, à la découverte d'une période méconnue mais charnière de l'impressionnisme français, 1870 et 1871. La guerre avec la Prusse, la Commune de Paris, des années sombres qui poussent entre autres les artistes Monet, Tissot ou Pissarro à partir en Angleterre. L'exposition Les Impressionnistes à Londres, artistes français en exil, retrace le parcours de ces peintres et sculpteurs.
Exposition également avec vous Hélène, ça se passe chez vous, à Nantes, au lieu unique.
Et oui, j'ai parcouru l'Asie en long et en large grâce à son 9e art. J'étais à l'exposition Mangasia, car la BD en Asie ne se résume certainement pas au manga japonais, Jean-François.
Quant à vous Alain, vous allez nous reparler d'une de vos chouchoutes.
Oui, avec un plateau télé recréé aux Trois Baudets, c'est à Paris, avec en vedette Barbara Carlotti.
Mais pour commencer, avant le coup d'envoi du Festival d'Avignon, où VMDN sera d'ailleurs toute la semaine prochaine, on va faire un détour par la Drôme provençale pour parler théâtre. Cet été, le château classé de Grignan accueille en effet la troupe du metteur en scène Vincent Goethals. Elle interprète en plein air Les Noces de sang, une œuvre majeure et inclassable de Federico Garcia Lorca, un drame qui a pour décor le sud de l'Espagne, en Andalousie. On est au début du XXe siècle et vous avez pu assister, Daphné, à une des premières représentations.
Et je me suis même rendue dans les coulisses, Jean-François, car il faut savoir qu'une trentaine de spectateurs peut monter sur scène chaque soir, à condition de s'entraîner. Ils retrouvent figurants, chanteurs et même danseurs pendant la noce, dans un décor rouge, noir et blanc. 2 heures avant donc, ils doivent répéter sous la houlette du metteur en scène Vincent Goethals et de la chanteuse lyrique Mélanie Mousset.
Alors je regarde la taille pour les chemises. Alors, il y en a un autre ici.
Oh, oui, oui.
Donc, les gens viennent avec du noir et du blanc, mais souvent trop contemporain, parce que on est dans les années 30. Donc, nous, on a ramené toute une série de robes, de jupes, de dentelles.
Voilà, essayez celui-là.
Je m'appelle Lila, j'ai 15 ans. Ça fait époque, il y a des longues jupes blanches, les hommes sont en costard. C'est festif.
On fignolera tout à l'heure, on va aller répéter.
Si vous tournez la page.
J'adore. C'est une chanson populaire espagnole. De los cuatro muleros.
De los cuatro muleros, Anita. Mira que bala la borgada la agua.
Avant d'arriver à la danse, il faut arriver à la fête. Ça va ouvrir les portes et il faut vraiment qu'on entende une bouffée de personnes qui font « Vive les mariés !» Ouais, ouais.
Et une fois que le spectacle commence, que font ces acteurs dansoirs ?
Eh bien, pendant le deuxième acte, ils deviennent les cousins et célèbrent les jeunes mariés autour d'un grand banquet. Le public entier est également invité à chanter. Ce côté populaire n'est pas sans rappeler la société de théâtre La Baraka, dirigée par Federico Garcia Lorca dans les années 30. L'idée était de diffuser le théâtre en milieu rural, une démarche qui a inspiré le metteur en scène Vincent Goethals.
Je voulais vraiment que ça soit très musical, hein, qu'on ait beaucoup de chants, que ce soit des chants de groupe. Et puis en plus, on demande aux spectateurs de chanter pendant la fête. Donc il y a quelque chose d'un seul coup qui vibre et qui, comme si le château se mettait à étinceler. Moi, j'ai été pendant 6 ans directeur du Théâtre du Peuple à Bussan, où là aussi, on est vraiment sur un théâtre, une certaine idée du théâtre populaire d'exigence, mais en même temps qui est très proche du public et très proche des gens. De faire intervenir les 800 spectateurs pendant la noce, on a quelque chose qui fédère, qui fait que ensemble on va vivre cette histoire.
Et la musique, Daphné, a une place très importante, hein, dans cette interprétation des Noces de sang.
Exactement, il y a des chants espagnols comme vous avez pu l'entendre. C'est un hommage en quelque sorte à Federico Garcia Lorca, auteur, peintre, mais aussi musicien, qui avait répertorié des chants populaires et sans tomber non plus dans le côté folklorique de l'Andalousie. Gabriel Mattei est le directeur musical.
Le matériau musical est d'origine andalou. En fait, Lorca a utilisé la musique de son pays et durant toute sa vie récolté les thèmes populaires, les a édités dans un recueil d'une douzaine de chansons populaires et antiques espagnoles. Le flamenco est quelque chose de très particulier et qui fait un peu carte postale. Et je trouve ça difficile d'utiliser la musique un peu pittoresque. Et par contre, utiliser le matériel musical, les thèmes, les transformer, les recomposer pour en faire une musique à l'inspiration où l'ADN est cette musique-là andalouse, mais arriver à lui donner une couleur très différente. Et c'est pour ça que l'orchestration est faite pour vibraphone, accordéon et violoncelle, pour évoquer par moments des rythmes andalous, accompagner, mais très vite pouvoir partir vers et proposer un univers musical différent.
Et ce drame est aussi une dénonciation de la société dans les années 30, Daphné.
Oui, rappelons que Federico Garcia Lorca, homosexuel, a été assassiné par des phalangistes à cette époque, puis ses œuvres interdites sous la dictature de Franco. Dans les terres rurales et conservatrices, la mère représente les carcans d'une société traditionnelle interprétée par l'actrice Anne-Marie Loupe, dont la prestation est très remarquée.
On raconte quand même une manière de penser les femmes, leur rôle de femme, le femme d'agriculteur dans une terre aride comme ça, totalement dépassée par rapport à notre époque. Donc, c'est des valeurs ancestrales. Garcia Lorca a voulu le traduire parce que quand même, lui, formidable être très engagé politiquement, mais aussi homosexuel dans une société totalement conventionnelle, il a dû lutter contre ça.
Angèle Bogodard, elle, a le rôle de la fiancée, tiraillée entre un mariage de raison et une passion sourde pour Leonardo, son ancien promis, un amour qui conduit à une guerre de clan.
Quelle plainte, quel feu me monte à la tête.
La pièce en elle-même, elle est très courte et en même temps, elle dit énormément de choses en peu de mots. Et moi, c'est ça que je trouve puissant et compliqué pour un acteur. Pour moi, c'est au-delà de ce que les mots disent. Il y a quelque chose que... Ouais, vraiment de l'ordre de la liberté. Je crois que c'est vraiment le bon mot pour la décrire. Et les 4 personnages des jeunes, pour moi, ont quelque chose de l'ordre d'une liberté qui est contrainte par une société patriarcale, une société traditionnelle. Et ils ont tous un feu en eux qu'ils essayent de s'approprier à leur manière.
Quels éclats de verre me taillaient de la langue.
Et plus on approche du malheur, plus la pièce s'oriente vers un monde onirique, voire surréaliste, de quoi se laisser transporter dans le cadre majestueux du château de Grignan.
Merci Daphné. Les Noces de sang, mises en scène par Vincent Goethals, se jouent donc tout l'été dans la Drôme provençale, voire près de Montélimar.
Personne ne les expose. À Paris, ils sont refusés par le salon officiel et ne vendent presque rien.
Ces galeries sont superbes. Cette lumière qui vient du ciel.
De toute façon, si le marchand d'art Durand Ruel ne les aidait pas, ces impressionnistes mourraient de faim.
Ce qu'on vient d'entendre, là, Élie, c'est un extrait du parcours sonore qui accompagne cette exposition « Les impressionnistes à Londres, artistes français en exil ».
Le Petit Palais a misé sur un parcours sonore très immersif raconté par deux comédiens qui campent des passionnés d'art de l'époque. Leur dialogue permet de revivre les débats artistiques d'alors. L'exposition est co-organisée par la Tate Britain et le Petit Palais. On y découvre le parcours d'artistes comme Claude Monet, James Tissot, Jean-Baptiste Carpeau et bien d'autres. Ces peintres et sculpteurs qui ont quitté la France entre 1870 et 1871.
Oui, deux années très sombres en France. Il y a d'abord évidemment la guerre franco-prussienne.
Avec le siège de Paris et la misère que cela a engendré partout dans le pays. Et puis il y a eu la Commune de Paris en 1871. Deux événements violents qui ont marqué les artistes de l'époque, explique Isabelle Collet, une des commissaires de l'exposition.
Beaucoup d'entre eux sont engagés militairement dans la bataille, ils vont donc participer au combat, ils vont être à Paris au moment du siège de Paris, puisque au fur et à mesure que les troupes ennemies avancent, Paris est encerclé et Paris va rester assiégé par ses troupes pendant tout l'hiver 1870-71. Et donc beaucoup de ces artistes vont être dans Paris et vont assister aux difficultés, vont vivre et assister aux violences et aux difficultés de la vie quotidienne durant le siège.
La France est ravagée par la guerre, il n'y a plus d'argent pour faire tourner l'économie et donc encore moins d'argent évidemment pour acheter des toiles.
Pour les plus jeunes, comme vont l'être les futurs impressionnistes comme Monet ou Pissarro, la situation en France est mauvaise puisqu'ils sont très originaux dans leur manière de peindre, ils sont mal acceptés par leurs aînés en France, donc ils n'ont rien à perdre à partir à Londres où la vie va être également assez difficile mais où la paix va leur permettre de continuer à peindre. Ils vont retrouver un marchand, Paul Durand Ruel, qui lui-même est exilé pour mettre à l'abri son stock de peinture. Et finalement, la communauté française à Londres va un peu se serrer les coudes. Certains vont même pousser la générosité à présenter leurs collectionneurs anglais aux nouveaux arrivants. Et ces réseaux de solidarité vont aider à une implantation sur le marché anglais.
Alors une fois en Angleterre, à Londres, Élie, que vont peindre ces impressionnistes français ?
Eh bien l'exposition, elle montre des tableaux de la vie quotidienne. Un parc de la banlieue londonienne, peint par Camille Pissarro, une vue très sombre de Hyde Park de Claude Monet, ou bien la Tamise de Sisley, ce fleuve est au cœur du travail des impressionnistes à Londres, Isabelle Collet.
Ils vont beaucoup s'installer au bord de la Tamise, soit dans le cœur de Londres, qui est un cœur très industriel. Ils vont aussi de préférence sortir de Londres grâce aux lignes de chemin de fer qui rendent très accessible la banlieue et partir vers des motifs plus aérés, plus champêtres, où ils retrouvent les londoniens dans leurs activités de loisirs favorites, les régates, les parties de cricket, la promenade dans les jardins botaniques par exemple.
Alors ces artistes étaient assez peu appréciés en France, hein, quel accueil leur a réservé l'Angleterre ?
Alors sans surprise, l'Angleterre victorienne n'est pas la plus avant-gardiste en matière de peinture. C'est ce qui explique Caroline Corbeau-Parson, la commissaire de l'exposition qui travaille à la Tate Britain.
Pas du tout. Quand les impressionnistes sont arrivés en 1870, tous les tableaux que Pissarro et Monet ont proposés à la Royal Academy ont été refusés. Il n'y avait pratiquement pas de visibilité de leurs œuvres dans les années 1870. Les Anglais n'étaient pas plus aventuriers que les Français, malheureusement, de ce point de vue-là.
Pour autant, l'Angleterre reste une terre qui attire les peintres français, plus accueillants que la France de l'époque.
Il faut quand même dire que les Anglais les ont accueillis à bras ouverts en tant que réfugiés. Il y avait des soutiens financiers pour ces artistes. On pouvait rester en Angleterre de manière indéfinie, indépendamment de sa nationalité. C'était vraiment une terre d'accueil.
Et sur place, chaque artiste va connaître un destin différent. Parmi ceux qui vont réussir, il y a James Tissot. Il a peint des scènes de la vie mondaine avec ce décalage et cette ironie très française. Et puis, il y a ceux qui n'y arrivent toujours pas. Pissarro, par exemple, mais aussi Claude Monet, explique Isabelle Collet.
Le premier séjour va être difficile. Il va peindre peu. Il ne vendra pas. Mais ses motifs de Londres, et notamment le brouillard de Londres, cette atmosphère si particulière de cette ville va lui rester en tête et il va revenir l'affronter, si on peut dire, sur la toile 30 ans plus tard et faire une très très belle série des vues de la Tamise qui assureront son succès en 1904 chez son marchand rencontré en 70, Paul Durand Ruel.
Et la confrontation de Claude Monet avec la Tamise est très présente dans cette exposition, Élie.
On peut y voir de nombreuses toiles où l'artiste réussira le tour de force de peindre du brouillard, ce fameux brouillard qui flotte au-dessus de Londres.
Londres est un vrai défi et ça le restera quand il reviendra en 1900. Il continue à écrire dans ses lettres combien c'est difficile de capter cet instant sur des toiles qui doivent n'être que des moments.
De retour à Londres au début du XXe siècle, Claude Monet peindra de nombreuses vues du Parlement du pays où le bâtiment n'est qu'un prétexte, à dessiner le brouillard qui l'entoure et la Tamise.
Les merveilleux effets que j'ai pu voir durant les 2 mois passés à observer sans cesse la Tamise sont incroyables. Voilà ce qu'il dit Claude Monet, on le sent vraiment fasciné par ce fleuve.
Oui, dans sa série de toiles du Parlement, l'impressionniste essaye de capter les nombreuses variations de lumière sur la Tamise. Ces toiles vont inspirer d'autres artistes, notamment André Derain qui se rendra à Londres entre 1906 et 1907. Là, il peindra Big Ben, une toile plus colorée, résolument fauve. Cette toile, c'est un hommage mais aussi un défi à Claude Monet qui montre comment le statut de Londres a changé. Lieu d'exil en 1870 et 1871, la ville est devenue le terrain de jeu de jeunes artistes français.
Une exposition à découvrir jusqu'au 14 octobre prochain au Petit Palais à Paris. Merci. Mangasia, c'est donc la plus grande sélection de bandes dessinées asiatiques originales jamais présentées au monde. Issue du centre Barbican à Londres, cette exposition a été conçue notamment par Paul Gravette, l'un des meilleurs spécialistes britanniques du 9e art, auteur d'un livre intitulé justement Mangasia. Une vingtaine de pays sont représentés, Hélène, sous des formes diverses, 200 volumes de bandes dessinées, 280 planches originales, des facsimilés, des objets divers, et j'imagine chez vous à Nantes pas mal de surprises.
Et oui, Jean-François, je vous présente Hatsune Miku, un personnage de manga libre de droit aux longs cheveux bleus et verts. Elle est 100% virtuelle, mais ça ne l'empêche pas, on l'entend ici, de chanter avec des vrais musiciens et pour un vrai public en délire. Ce personnage symbolise l'influence qu'a la bande dessinée sur la pop culture et sa porosité. Et justement, la porosité, c'est la spécialité du LU, explique Patrick Giger, son directeur.
Le lieu unique s'intéresse un peu aux espaces interstitiels entre les formes d'art établies, ça nous intéressait. De montrer les influences croisées en Asie, donc d'avoir une cartographie et une recherche historique, ainsi qu'une recherche par thème. Un espèce de croisement qui permettait de montrer les mangas aux gens qui s'y intéressent, mais également, et c'est très important, aux gens qui ne s'y intéressent pas. Même des gens qui sont plutôt réticents à la bande dessinée en général, découvriront un pan de l'histoire d'Asie à travers les mangas.
Et c'est un vrai voyage, hein, cette exposition, Hélène.
Oui, on arpente à la fois les pays, comme ici l'Inde avec ce dessin animé, mais aussi les âges et les thématiques. L'exposition agit comme une mise en contexte de ce qui est présenté. Laurent Mélikian, critique de bande dessinée.
L'influence chinoise et la culture dominante de la région, mais depuis quand même plus de 3000 ans, nous avons la culture japonaise qui s'est développée à partir de cette culture chinoise, et puis des influences qui sont venues à la fois d'Europe et qui sont venues d'Amérique. Alors si vous allez aux Philippines, par exemple, vous avez une bande dessinée qui ressemble beaucoup à la bande dessinée américaine. Si vous allez en Chine, vous avez une bande dessinée traditionnelle chinoise très puissante, et si vous allez en Inde, vous avez aussi d'autres influences traditionnelles indiennes, mais des influences également britanniques. En fait, ces bandes dessinées sont un peu des fenêtres ouvertes sur différentes sociétés et des sociétés extrêmement variées.
Alors ainsi, le Bhoutan a un personnage qui court très vite et qui rappelle le Flash américain. La Corée du Nord a son Robin des Bois. Les Pérégrinations vers l'Ouest, l'un des 4 grands romans chinois, a inspiré la saga japonaise Dragon Ball.
Mais alors, de quoi parle-t-elle cette bande dessinée asiatique ?
Dans cette vitrine, on mange des choses de Thaïlande. Ils ont eu des choses vraiment horribles. Oui. Ce personnage-là, qui s'appelle Krasue, c'est une femme, homme roux, mais votre tête, ça se passe, ça devient une chose flottante.
Paul Gravette, le commissaire britannique de l'exposition, l'explique. La BD Miroir du Monde, c'est d'abord la présence des mythologies asiatiques, des grandes histoires et puis la religion.
Nous montrons des planches de Bouddha, par exemple, une biographie créée par Osamu Tezuka, le dieu de manga. Il a essayé d'exprimer la spiritualité avec la langue de manga, des formats de mise en page vraiment spectaculaires, et peut-être avec le manga, parce qu'il y a plus de pages pour créer une atmosphère. C'est pas seulement un petit format de 48 pages en couleur cartonnée, comme ici en France avec Asterix. Le lecteur entre vraiment dans les sentiments des acteurs.
Et la BD a aussi une vocation politique et contestataire, j'imagine.
Par exemple, ici, ça c'est le trouveau d'un dessinateur de Singapour qui parle de la liberté, l'indépendance de Singapour, mais aussi tous les problèmes après l'indépendance de ce pays.
Et oui, tout à fait. Dans les planches présentées, on retrouve l'histoire des pays et leurs relations diplomatiques, et puis les contorsions et les crises. On écoute Laurent Mélikian.
forcément, dans tous les pays où on a publié de la bande dessinée, l'impact est énorme. Au Japon, il y a quelques années, il y avait des manifestations contre la réforme du système médical et on utilisait un personnage de bande dessinée comme porte-drapeau de ces manifestations. Du côté de la Chine, c'était le gouvernement lui-même qui organisait sa propre politique culturelle et donc sa propagande à travers la bande dessinée.
Et Paul Gravette évoque, lui, un art puissant et contestataire. Et cette dimension est en train de trouver un nouveau terrain d'expression numérique, comme avec les webtoons coréens, des BD qui se lisent uniquement sur téléphone portable.
L'ajout des techniques de mouvement, de son, votre portable peut trembler un peu. Surtout, ça a donné un média pour adresser des choses un peu difficiles à parler dans les grands médias. Problèmes sociaux, politiques, la corruption, l'exploitation d'entreprises commerciales comme Samsung, par exemple, ou Dalwood. Ces choses sont vraiment populaires, presque 12 millions de lecteurs chaque jour.
D'autres combats, Hélène ?
Pour les femmes, la vie n'est pas vraiment simple au Japon.
Et oui, ceux des femmes, Jean-François, des pans entiers de la BD leur sont consacrés sur le continent, comme le shoujo au Japon. Là encore, la BD reflète la société. Paul Gravette et Laurent Melikian.
Nous montrons quelques jeunes femmes qui montent maintenant, par exemple, en Inde. Parce que là, il y a vraiment une renaissance de bande dessinée actuellement, surtout avec le roman graphique. Mais aussi, nous avons trouvé dans les années 80, dans la presse, une dessinatrice qui fait des bandes dessinées vraiment satiriques sur les problèmes de droits de femmes.
Aux Philippines, là. Le grand héros de bande dessinée, c'est une héroïne, c'est une version féminine de Superman qui s'appelle Darna. L'auteur Mars Ravello disait toujours qu'il ne s'était pas inspiré de Wonder Woman, non, mais qu'il s'était inspiré de Superman.
Alors, qu'y a-t-il d'autre à voir, Hélène ?
Bien sûr, on peut regarder des animés ou encore cette gigantesque sculpture gonflable d'une midinette en maillot de bain, œuvre de la plasticienne Takano Aya, des sanctuaires portatifs du Rajasthan. Je vous passe les salles sur la BD érotique, même si on y trouve des choses étonnantes, mais surtout, voici Mekasobi. Alors Mekasobi, c'est un robot que vous pouvez incarner en réalité virtuelle. Il fait 3 mètres de haut, il est capable de tout casser autour de lui. Vous vous placez sur le tapis, vous levez les bras et lui en face sur l'écran, il lève les bras. Vous pouvez donner des coups de tronçonneuse, tout attiré à vous avec un aimant. Un vrai bonheur, Jean-François.
Oui, de quoi vous donner envie d'être un robot. Merci Hélène Mangasia, c'est donc jusqu'au 16 septembre au lieu unique à Nantes dans l'ouest de la France.
J'avance sans peur dans la dead zone de toute la bas. À marcher seul sur le volcan, le feu déclenche parfois le vent.
Voir les étoiles tomber, extrait du dernier album de Barbara Carlotti, Magnétique, une chanteuse qui a la bougeotte. Alain.
Ce qui n'est pas pour nous déplaire, Jean-François, elle a notamment réalisé un atelier radiophonique, a présenté une émission de radio, a chanté en duo avec Michel Delpech ou Bertrand Burgala, était à l'initiative d'expositions. Bref, Barbara est en constante évolution, révolution. Le spectacle 66 Révolution Pop ou 666 Revolution Pop était fait pour elle. Il s'agit d'un superbe show télémusical. Clin d'œil au fameux rendez-vous télévisé de variété que nous a proposé le fameux couple de producteurs artistiques Mariti et Gilbert Carpentier des années 50 jusqu'aux années 90.
Et vous étiez à la première de 66 Révolution Pop, mardi, dans la fameuse salle créée par Jacques Canetti, Les Trois Baudets, à Paris.
J'étais tout seul, j'étais parti et je ne voulais pas rester là.
L'idée, c'était de faire une sorte de plateau télé et puis de faire des interviews, en fait, de chanteurs. Donc, on a été épuisés. Hein. Tout ce qu'on raconte est vrai. C'est tiré de bouquins, d'interviews télévisées ou radio, en fait. Et tout ça, donc, on a fait une sorte de grand collage pour en faire une seule émission, en fait. Une émission qui proposerait une chronique de l'année 66 en chanson.
Merci Johnny, je veux te graver dans ma vie une adaptation de Got to Get You Into My Life, un titre extrait du tout dernier 33 tours des Beatles, Revolver. Johnny, c'est la 4e fois que vous interprétez une adaptation des Beatles. Je crois qu'il y a eu Je l'aime, votre version de Girl.
Mm-hmm. Ouais, les Beatles, c'est vraiment des chic types. Je les aime beaucoup.
Est-ce qu'il y a un changement entre les entrevues faites dans les années 60, enfin en 66, là, puisque c'est années 66, et aujourd'hui en 2018?
Ah oui, bah, déjà, il y a un changement de ton qui est manifeste et qui est hyper intéressant, de comment on s'adresse aux chanteurs, de comment aussi les chanteurs répondent. Enfin, je trouve que il y a une espèce de, je sais pas comment dire, de tenue à l'époque très particulière.
Eh bien, je suis heureux de recevoir aujourd'hui la candide ambassadrice d'une génération virevoltante.
Bonsoir.
France Gall. Bonsoir France.
Bonsoir.
Alors vous savez qu'ici on a à cœur de parler de tout ce qui regarde la jeunesse.
Ouais.
Et la jeunesse est parfois bien jolie à regarder.
Décidément, les adolescents commencent. Après leur midi, voici qu'ils imposent les mini-jus. Bien sûr, l'adolescence est de tous les âges. Mais jusqu'à quel âge précisément qui est-elle aux femmes?
Qui est très risqué et très réussi, c'est reprendre aussi le Lucifer Sam de Pink Floyd. Vous avez dit oui tout de suite, qui a eu l'idée?
C'est moi. En fait, c'est moi qui ai choisi toutes les chansons. Hein. Et j'ai mis du temps parce que j'ai choisi d'abord les artistes que j'aimais bien, ceux qui me paraissaient intéressants par rapport aux propos, et les chansons que j'avais vraiment envie de jouer. Et en fait, j'avais lu que donc le UFO Club avait ouvert à Londres en décembre 66. Donc c'est vraiment très tardif par rapport à notre propos, mais je voulais quand même l'inclure parce que c'était pour montrer en fait comment cette pop qui est justement un petit peu classisante va devenir en fait complètement psychée très vite.
Il y a Brigitte Fontaine et Serge Gainsbourg côté français. Qu'est-ce qu'ils représentent en 1966 dans le paysage musical?
Bah, Serge Gainsbourg, c'est compliqué parce que je pense que à l'époque il écrit encore essentiellement pour les autres. Il a fait son album Percussion et tout ça. Il a fait des albums à lui, mais qui sont pas où il n'y a pas des énormes tubes comme il pourrait y en avoir après. Mais il opère vraiment ce changement de ton musical en fait. Et je pense que c'est un découvreur en fait. Gainsbourg, il est très à l'affût, je pense, de ce qui se passe. Et donc, il capte beaucoup ça et il le transforme en musique immédiatement. Il écrit énormément et voilà. Et donc, il y a Kiein, Kiyat, qu'on reprend sur scène, qui est un peu manifeste de ça. C'est-à-dire, je pense qu'il se posait la question vraiment de savoir ce qui marche et ce qui marche pas, ce qui est dans l'époque et ce qui n'est pas dans l'époque, en fait.
Barbara Carlotti, comment vous sentez-vous un quart d'heure, 20 minutes après la fin de cette première?
Je suis contente parce que c'était un énorme travail et on n'a eu que 5 jours pour le mettre en place. Et je peux vous dire que les musiciens ont été géniaux. Ils ont été vraiment mais d'une attention et d'une présence incroyable. Ils étaient, je pense, aussi passionnés que moi de reprendre ce répertoire, donc ça a beaucoup aidé à fluidifier, à trouver des arrangements rapidement, parce qu'on est obligé de réduire beaucoup les arrangements avec 3 musiciens sur scène qui m'accompagnent. Moi, je joue pas d'instrument, là, j'ai trop de choses à faire, j'ai du texte, donc c'était...
Changement de costume
et tout. Mais, c'est... En fait, là, je suis contente parce que je trouve qu'on joue, enfin, qu'on rend honneur à la musique et on fait pas des versions qui sont complètement fidèles. On les fait à notre manière en essayant de garder un esprit de l'époque. Et je crois que ça, on a réussi ça. Donc, moi, je suis assez fière de ça. C'est-à-dire, cet esprit pop, en fait, on arrive à l'invoquer. Et quand je chante, moi, tous ces chanteurs, je les chante pas avec leur voix, j'essaye pas de les imiter. Je les chante à ma manière, mais je me laisse traverser par l'esprit de ce qu'ils ont fait. Et je trouve que c'est aussi une manière, en fait, c'est un exercice. Pour moi, c'est un vrai exercice d'admiration. Jean-Pierre Petit, Benjamin Zdrafo, Mathias Fisch, Pierre Leroux,
Barbara Carlotti.
66 Révolution Pop, c'est donc actuellement aux 3 Baudets à Paris jusqu'au 27 juillet, relâche les samedis, dimanches et lundi. Merci Alain, merci aussi à Élie, Hélène et Daphné. Dans un instant l'info, on se retrouve lundi en direct du Festival d'Avignon, cette fois pour le coup d'envoi d'une semaine d'émission consacrée aux arts du spectacle vivant, et vous m'en direz des nouvelles. Musique du